CIBL, au cœur de la décadence.
CIBL 105, Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 105, l'émission de la Maison du développement durable. Aujourd'hui, on parle de Climate Quitters. J'espère que je le dis comme il faut. Je connais absolument pas ça, mais on en parle avec Patrick Rondeau dans quelques minutes. On a également la chronique d'Alexandre Escure sur une exposition en ce moment au Musée des Beaux-Arts qui semble absolument magnifique et que j'ai bien hâte de découvrir moi-même. Et on parle avec l'autrice Karine Gilavoy qui vient de sortir le deuxième tome d'une série jeunesse dont on va parler en fin d'émission. Et pour commencer, j'ai le bonheur d'accueillir Maïté Bellemire.
Oui, bonjour Maud.
Bonjour.
Je suis bien contente d'être là.
Alors, de quoi on parle avec toi aujourd'hui?
On parle consignes, des consignes, consignes actions. Alors, en fait, effectivement, on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines des projets liés à la consigne. On va avoir des lieux, excusez-moi, de retour qui vont fleurir à travers le Québec pour accueillir les consignes, les contenants consignés donc de ce que vous consommez pour les recycler. Et bonne nouvelle, le taux de récupération des consignes a augmenté. Donc si on compare la période de novembre à février dernier, on a une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière, la même période l'année précédente. Est-ce que c'est parce que le montant de la consigne a augmenté, passé de 5 à 10 centimes, ou est-ce que c'est juste parce qu'on en a tellement parlé que ça a remis une petite piqûre de rappel dans la tête des gens? Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est qu'on a plus consigné. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais la grande annonce, c'est surtout le déploiement d'un réseau de succursales dédiées où l'on pourra déposer les contenants consignés dans toute la province.
Mm-hmm. OK. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça va ressembler, ce déploiement?
Alors, d'abord, je vais prendre le temps un peu de vous parler de ces lieux. On aura deux types de lieux de retour. On aura les lieux de retour consigne-action et les lieux de retour consigne-action plus.
OK.
La différence, c'est qu'il y en a un qui accepte donc les retours à l'unité. Vous mettez votre canne, une à la canette, une à la fois. Le retour express. Alors, le retour express, c'est vous déposez vos consignes. J'imagine que vous aurez un code QR à lire. Puis c'est fait, vous partez, puis c'est fait pour vous, puis vous recevez votre argent ensuite numériquement. Et le consigne action plus a la différence d'avoir le retour en vrac. Le retour en vrac, c'est vous venez avec votre gros sac, puis vous le déversez dans un gros bac, puis ça compte super vite. En fait, c'est plusieurs centaines de canettes par seconde, en quelques secondes. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Les horaires d'ouverture, parce que ce ne sera pas ouvert en tout temps. Donc on aura des horaires d'ouverture tous les jours de la semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, ça ferme à 18 ou 19 heures max. Donc contrairement à d'autres, le point de dépôt actuel qui ferme pas ou qui ferme à 22 heures, bon ben c'est sûr que c'est quand même beaucoup dans les horaires des horaires où les gens sont très occupés déjà. À l'intérieur, les images des succursales sont super belles. On a un look ultra moderne, un design minimaliste. Évidemment, on reprend les couleurs de vert et blanche de la marque Consigne Action. Ma question, c'est est-ce qu'on aura ce look à l'extérieur et est-ce qu'on va rajouter quelque chose de vraiment criard au lieu de le fondre dans un paysage pour éviter la pollution visuelle, parce que souvent quand on crée un nouveau réseau, on veut qu'il se voit.
Exactement.
Mais en même temps, ce serait quand même cool qu'on ait pas genre des lumières allumées toute la nuit, puis voilà. Donc ça, on verra, on sait pas. Et puis aussi, une nouveauté, c'est qu'il y aura des gens à l'intérieur pour vous aider, du personnel pour gérer les lieux de retour.
Donc on voit que le service sera optimisé de diverses manières. Ouais. Et là, le service en tant que tel va changer.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui change avec ça, c'est comme je vous disais, donc on a les retours en vrac, les retours express, la numérisation, qui est un peu quelque chose d'assez nouveau, dans le sens où vous pourrez vous créer un compte en ligne, vous pourrez vous faire rembourser numériquement, il y aura une application mobile. Donc tout ça, c'est comme vraiment un pas de
pour
plus.
Faciliter le versus aller chercher sa petite facture avec son petit change.
Donc le fait d'être remboursé numériquement, ça c'est aussi voilà. Bon, après on sait que le petit change, c'est bien aussi. Moi, je sais que, par exemple, je m'en sers pour acheter mon itinéraire quand je croise un camelot, oui, parce que j'ai jamais de change. Non, bon, voilà. Et puis, oui, c'est vrai qu'on aura ce gain de temps aussi avec les retours différés ou les retours en vrac, parce que c'est sûr que, on peut comprendre que... À l'unité, ça prend du temps.
Mais ça semble quand même être un projet ambitieux, d'après ce que tu me décris là. On aime les projets ambitieux.
C'est sûr que la modernisation de Consigne Action est un projet très ambitieux et à plusieurs niveaux. D'abord, l'objectif, en fait, d'ouvrir 400 lieux de retour à travers le Québec.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Ça veut dire qu'à la fin, on en arriverait avec un réseau de 1500 lieux de retour en comptant les détaillants. Donc ça, c'est génial. Parce qu'on s'entend que plus on aura, plus les gens vont rendre leurs contenants consignés. Hein. Mais c'est quand même créer un réseau de succursales de 400 points de vente là. Et sachant qu'il y a un objectif de 200 lieux de retour pour mars prochain, dans moins d'un an.
Ah oui, hein. 200 à construire en moins d'un an, ça, c'est plus qu'ambitieux, je trouve.
Donc ça, c'était un peu l'enjeu dont tout le monde parlait, parce qu'en fait, oui. Ils ont des enjeux de trouver les endroits, d'avoir les autorisations, de trouver... Bon. Le taux de recyclage, on aspire à un taux de recyclage de 100%. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que tout ce qu'on ramène sera recyclé. Moi, j'adore qu'on vit cet objectif-là, oui. Je suis pour. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des capacités de recycler le verre des bouteilles de vin et le plastique des bouteilles d'eau au Québec, parce que les canettes en aluminium, pour l'instant, sont recyclées aux États-Unis. Bon, en soi, tout le monde chiale sur ça, mais si ça allait à l'autre bout du Québec, ce serait peut-être aussi loin qu'aux États-Unis, donc en termes de GES, de transport, voilà. Mais au moins, c'est vrai que pour les autres contenants qui seront bientôt consignés, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse gérer ça ici. Et on vise un taux de retour, donc ça veut dire qu'on aspire à ce que la population retourne ses contenants, pour 90% de la population d'ici 2032. Donc ça, c'est très ambitieux. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'il y a apparemment comme taux en Allemagne, okay. Où la consigne est hyper établie depuis toujours.
Mais c'est ça, c'est une question d'établissement
aussi. Oui, c'est ça, il faut le temps, là. Mais d'ici 2032, voilà, moi, j'y crois. Évidemment, qui dit objectif ambitieux dit aussi quelques petits doutes ou quelques petites réserves. Moi, je suis un peu la sceptique de la bande en général, de toute façon, donc voilà.
Mais on t'aime pour ça.
Oui. c'est vrai que on a beaucoup entendu parler surtout du défi de trouver des locaux pour Consigne Action et d'obtenir les permis d'utilisation, de construction, des travaux pour respecter le délai dont je parlais de mars 2025. Mais il y a beaucoup d'autres questions en suspens en mon sens. J'ai tenté d'avoir des réponses à mes questions avec Consigne Action, mais malheureusement on m'a dit que les délais étaient trop courts pour me répondre, donc pour ma chronique, donc j'ai pas les réponses. J'suis très frustrée, mais ça arrive.
Tu reviendras quand tu les auras.
Ouais, on verra si je les aurai. je vous ai dit que j'étais la sceptique. Donc, le budget de chaque succursale est estimé à 500 000 $. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est avant retard, avant frais imprévus, qu'on connaît dans tous les projets de construction, quels qu'ils soient. On parle d'un budget total de 200 millions de $ pour le réseau des 400 lieux. Ça, c'est un budget juste pour le lieu. Et cet argent, Consigne Action ne l'a pas. Parce que là, ils sont en train de demander un prêt à la CAQ, en fait, pour essayer de les aider. Puis la CAQ, ils sont en train de dire « Ouais, mais je sais pas. » C'est un emprunt. C'est pas de, donc, ouais. Bon, donc là, on se dit « Ok, on est super serré dans les délais, puis vous avez pas l'air d'avoir le cash, ça commence pas très bien.
Ouais. »
Moi, je me pose la question de la création d'un réseau de 400 lieux dédiés. Qui va gérer ces lieux de retour, son entretien, ses employés? On s'entend qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Donc 400 lieux, c'est autant d'employés à trouver, à former et à garder.
Oui.
Est-ce qu'on va voir des lieux ouvrir et fermer, comme on l'a vu avec la SQDC de la Plaza Saint-Hubert, qui fonctionnait super bien? Il y avait toujours un line-up qui était une des premières, et puis qui finalement on a fermé comme ça. Donc voilà, c'est quand même des questions à se poser. La localisation, ça, c'est une partie qui est assez... pour l'instant, c'est normal, ils n'ont pas encore trouvé les locaux. Donc, on n'a pas de carte.
De voir où ça sera réparti.
C'est sûr qu'il y a une volonté de la part de Consigne Action de faire ça sur le trajet d'épicerie. Donc ça, c'est bien. Oui. Mais c'est quand même pas très, très clair. Moi, je me pose la question, c'est vrai qu'il n'y a aucune carte qui a été dévoilée. Je me demande, c'est quoi la stratégie derrière ça? Je sais que le président directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, Normand Bisson, je l'ai entendu en entrevue avec Paul Arcand. Puis, par exemple, Paul Arcand lui demandait, est-ce que vous avez pensé à créer, par exemple, des lieux de retour à côté des SAQ? Ça pourrait être super pertinent.
Par exemple.
Ben non. Ben non, parce que dans leur stratégie, eux, ils veulent ne pas être rattachés forcément à des enseignes en particulier, ce que je comprends, mais en même temps, ça aurait été quand même hyper pertinent. Oui. T'es déjà dans un stationnement, t'as déjà un local, t'as déjà des employés, puis tu fais ton extension, les gens viennent acheter leur vin, ramènent leur bouteille, c'est quand même... Voilà.
Oui, mais bon, même une part de logique.
Voilà. Et puis, moi, si j'étends cette réflexion, c'est vrai que pourquoi pas moderniser les équipements, mais ça va être fait pour accueillir les nouveaux contenants, mais les équipements des épiceries qui reçoivent déjà tous ces contenants, toutes ces consignes, mutualiser les ressources, en fait, mutualiser les locaux, plutôt que de faire cavalier seul dans un projet titanesque, parce que là, en fait, on peut même, tu sais, je pensais, il y a bien des édifices municipaux, des stations essence,
oui,
qui s'y prêtent peut-être bien, pour avoir un gros réseau, plutôt que de s'embarquer dans une...
Ouais. Oui, on dirait qu'il y a comme une espèce de souci de ressortir du lot, ouais, de faire comme « wow, on se modernise dans la consigne ».
Moi, j'adore le projet. Je suis sceptique, mais j'adore le projet. Mais c'est juste, ça me paraît tellement genre... Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de questions, comme je le disais. Puis moi, surtout aussi, il y a le côté... les lieux ne sont pas autonomes du tout. Pourquoi on n'a pas des espaces 100% autonomes où les gens viennent, où on n'a pas d'heure d'ouverture, où on n'a pas d'employés? Parce que c'est vraiment des contraintes. Puis jusqu'à maintenant, il y a des machines automatiques partout. Donc pourquoi on n'a pas justement... plutôt booster, développer davantage ça, quoi. Donc voilà, après d'autres questions comme est-ce que ce réseau va cannibaliser les détaillants actuels? J'imagine que non, parce qu'on ne sera pas sur les mêmes zones géographiques, dans les mêmes localisations. Mais bon, c'est vrai que c'est des questions à se poser. Et puis, moi, bah, forcément, hein, est-ce que ces lieux sont pensés pour la ville toute automobile qu'on connaît et qu'on a aujourd'hui? Parce que c'est certains qui vont se retrouver sur des stationnements de centres commerciaux, là où on vient. Puis, tu sais, si on veut changer ça, pourquoi on crée un réseau de 400 lieux, 400 nouveaux lieux qui est construit sur cette logique-là, alors qu'on essaye de déconstruire cette ville tout 100% en voiture? Mais je comprends qu'il faut aussi que ce soit facile pour les gens. Mais bon, tu sais, est-ce qu'on pourra rendre ces consignes en transport collectif? On s'entend. Je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
Non, non, de transporter son gros sac.
Voilà, mais tu sais, c'est sûr, bon, on garde les points, les détaillants en centre-ville, donc je pense que ceux qui ont l'habitude de faire ça à pied, comme moi, continueront de le faire. Mais voilà, donc il y a un peu cette vision, en fait, que j'ai pas sentie dans les projets qui étaient présentés, en tout cas. Donc voilà, c'était mes réflexions par rapport à ça. Comme je disais, je suis la sceptique, mais je suis hyper enthousiaste par rapport à ce déploiement, par rapport à ces incitatifs. C'est génial que le Québec se lance dans un projet aussi ambitieux. Mes questions, c'est pourquoi c'est pas les fabricants qui payent ça?
Hein,
tous ceux qui mettent dans la nature des milliards, parce qu'on parle de ces 5 milliards de contenants estimés au Québec qu'on voudrait recycler avec la consigne, pourquoi Coke, Nestlé et compagnie, eux, ne prennent pas une partie de ces frais d'ouverture de succursales de consigne action? Et puis, je m'entends bien, hein, Coca, c'est gros.
Oui.
Mais bon,
ça rentre dans la responsabilité des entreprises.
C'est eux qui pitchent ça dans la nature. Donc voilà, et puis, in fine, est-ce que c'est bien de toujours vouloir recycler plus? Est-ce qu'on ne devrait pas juste consommer moins? Voilà.
Ah, ça, c'est, merci pour ces sages paroles ce matin, Maïté.
Avec plaisir.
Et peut-être que tu reviendras avec des réponses une
prochaine
fois.
J'espère. Je vous ferai un suivi. Et consignez. Gardez vos cannes.
Oui. Merci, Maïté Bellemire. Une excellente journée à toi.
Merci.
Et je me tourne maintenant vers Patrick Rondeau, directeur du service Environnement et Transition Juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Bonjour, Patrick.
Bon matin, Maude.
Bon matin. Donc, en introduction, j'ai dit de quoi tu allais nous parler, les climate quitters, donc?
Ben oui, toi, les climate quitters. Hein?
Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce?
C'est comme ça qu'on le prononce, puis c'est pas un revival d'un groupe yéyé des années 60 du tout.
Ça ressemble un peu à ça.
On parle plus... les climate quitters ce soir seulement. Non, on parle plutôt de démissionnaires climatiques.
Oui.
Donc, traduction assez ad lib. Peu à l'instar des jeunes, au niveau des étudiants et des étudiantes, qui arrêtent d'étudier pour des raisons climatiques. Hmm. On est à peu près là, dans la même sphère, mais dans la sphère du travail maintenant avec nos climate quitters. Donc, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est ça, en bout de ligne, cette bibitte-là? Ben, en fait, c'est assez sérieux comme cas pour que l'illustre journal Les Affaires y consacre un article le 22 mars dernier qui s'appelait « Comment vous prémunir des climate quitters? » Donc, hein, un vrai danger public qui menace le tissu économique du Québec. Mais si on s'y penche un peu, il y a un peu de vrai là-dedans, malgré tout, ou du moins un certain potentiel et des conséquences qui sont réelles. En 2022, Global Watch, qui est une plateforme dédiée aux meilleures pratiques dans les milieux de travail concernant la santé mentale et le bien-être des employés, levait déjà un drapeau jaune et assez foncé sur l'impact des changements climatiques sur la santé mentale des travailleurs et des travailleuses. Et ce drapeau-là, ben, il est devenu encore plus foncé et se manifeste présentement par un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur, donc soit ceux et celles qui quittent leur travail pour des raisons écologiques, donc nos fameux « climate quitters ». Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on assiste vraiment à une petite révolution tranquille, silencieuse? C'est-tu vraiment quelque chose de vrai? Bien, si on regarde le contexte, en tout cas, c'est favorable pour qu'il y ait vraiment des conséquences. Mm. Parce que, dans un premier temps, on est dans une situation de plein emploi, le taux de chômage est relativement bas, mais on assiste surtout à une situation assez inusitée où les rôles sont inversés au niveau du pouvoir entre employeurs et employés, du moins au niveau de l'embauche. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui rentre sur le milieu du travail et qui souhaite un meilleur équilibre entre leur vie personnelle, leurs valeurs et, bien sûr, un revenu, ça va de soi. Donc, ça donne des situations entre vous, la personne, candidate, candidement, dit des choses comme « Qu'est-ce que tu m'offres pour que je vienne travailler pour toi? » moi, à mon époque, ça n'aurait pas marché du tout.
Non.
On m'aurait indiqué la porte et j'aurais eu beau chanter « Mes blues passent plus dans la porte » que ça n'aurait absolument rien changé.
Ouais.
Hein? On m'aurait dit « Non, non, ça ne va pas. » Donc, mais si on revient à nos quitters, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils quittent leur travail? Effectivement, il y a cette question-là d'incohérence entre les décisions d'une entreprise et les messages véhiculés par l'entreprise et surtout les actions. Mm-hmm. Autrement dit, quand les bottines ne suivent plus du tout les babines, c'est de ça qu'on parle, qui initie ce mouvement-là. Et c'est loin d'être isolé au Québec, bien au contraire, ça prend de l'ampleur au niveau mondial. D'ailleurs, la BBC rapportait dernièrement l'exemple concret de Stephen Crodzina, qui est un négociateur énergétique, en autre langage, un trader dans le monde de la finance, qui travaillait pour la firme Next Kraftwerk en Allemagne, qui a claqué la porte parce qu'un des clients était la pétrolière Shell, qui a changé sa stratégie et abandonné sa promesse de cesser d'accroître sa production. Donc, pour M. Crodzina, c'était suffisant pour dire « Ah non, là, ça ne fonctionne plus, je m'en vais. » Donc, on nage dans les eaux d'un lac trouble où s'entrechoquent les valeurs, l'éco-anxiété et l'éco-colère tout en même temps. Et on peut se dire « Oui, mais OK, notre ami Stephen est un cas isolé et qui claque la porte de son employeur, change pas grand-chose dans les faits. Après tout, qu'est-ce que ça peut changer face à une multinationale? C'est une goutte d'eau dans l'océan, etc. » Pourtant, les indicateurs du monde des affaires démontrent que le risque est vraiment réel et surtout que les impacts réputationnels peuvent être assez dommageables. Mm. Et pour l'instant, c'est peu chiffré, mais quand même un peu documenté. Au Royaume-Uni, on estime que 35 % des travailleurs et des travailleuses seraient prêts à quitter leur emploi pour des raisons climatiques.
C'est beaucoup.
Donc,
là,
ben, c'est beaucoup. On parle de plus du tiers de la population.
Oui.
Donc, c'est énorme sur une main-d'œuvre et c'est une pression incroyable et surtout un levier inimaginable, extraordinaire. Et ce chiffre-là, il monte encore plus quand on va du côté de la génération Z. Il passe à 53 % des jeunes qui seraient prêts à quitter leur emploi pour des enjeux climatiques. Si on revient un petit peu plus près de nous, il y a un sondage de la firme Pullman en 2023 aux États-Unis et au Royaume-Uni qui démontrait que les deux tiers des employés sondés étaient anxieux face à l'environnement. Donc, peu importe le milieu de travail, quand même, ça donne un peu d'espoir. Hein, quand on pense, bien, est-ce que je suis tout seul à penser comme ça dans mon milieu de travail, puis j'ai envie de partir parce que ça ne marche pas dans ma tête, les valeurs? Non, vous n'êtes pas seul. Donc, vous n'êtes pas seul. Non, il y en a d'autres.
Merci, Patrick.
Donc, gardez espoir. Donc, et un autre exemple aussi, mais ce coup-là, au niveau du risque réputationnel, est-ce que c'est vrai ça aussi? Est-ce qu'il y a vraiment un risque réputationnel? On va prendre l'exemple de Caroline Dennett, 52 ans, qui a quitté son emploi. Elle travaillait directement chez Shell pendant 11 ans, 11 ans de loyaux services, et elle a quitté pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les messages étaient incohérents avec les actions de l'entreprise. Sauf que Mme Bennett, elle a eu l'idée de publier sa lettre de démission sur LinkedIn, qui n'est pas la plateforme la plus populaire, mais quand même, et elle a recueilli plus de 17 000 réactions à sa fête, à ce jour, et ça continue à monter. Et sa lettre a été partagée plus de 1800 fois à ce jour. Donc, on peut parler réellement de mouvement. Mm-hmm. Il y a un appétit pour ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut canaliser ça? C'est ce que tu allais dire.
Écoute, j'allais te poser la question. Comment on fait, Patrick?
Bien, premièrement, est-ce que tout le monde devrait quitter son emploi dans un geste ultime de résistance? Je te vois sourire. L'idée est tentante.
Non,
mais ce n'est pas très réaliste. Et on ne demandera pas ça à l'effet durable ce matin, j'en suis sûr. En fait, ça met en relief des éléments primordiaux. Mm. Quand les gens ne font pas les liens, font les liens entre l'activité humaine, donc le travail de façon générale, et les changements climatiques, il y a un déclic qui s'opère. Ça, c'est assez indéniable. Et c'est un point assez important parce qu'on sous-estime ce point-là. On sous-estime ce déclic-là et on brûle des étapes des fois et on prend trop souvent pour acquis que les gens sont tous capables d'expliquer le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, mais dans les faits, ils constatent les conséquences du réchauffement climatique par les catastrophes climatiques, les événements météorologiques, etc. Et les liens ne se font pas. Donc, ce déclic-là n'existe pas pour arriver à une action concrète.
Une action concrète, oui.
Donc, si on se dit, hey, cette histoire-là de Climate Quitters, ça a l'air d'être une bonne piste, il ne faut pas sous-estimer malgré tout la nécessité d'éducation et de dialogue et d'émission, comme l'effet durable,
oui,
naturellement, et cette nécessité-là de communiquer ces enjeux-là. Donc, bien que nous soyons en situation de plein emploi, il en demeure pas moins. Il faut quand même être honnête que la lutte des classes existe bel et bien et que ce n'est pas tout le monde aussi qui peut dire « je claque des doigts, je quitte mon emploi,
évidemment,
ça ne marche pas avec mes valeurs ». Effectivement, ce n'est pas à la portée de tout le monde d'une certaine façon. Donc, il faut absolument que si ce mouvement-là des Climate Quitters prenne de l'ampleur, qu'il adresse ces enjeux-là aussi d'éducation, de classe, de salaire et qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités dans la vie. On peut aussi faire une différence sans quitter nécessairement son emploi, soit tenter de changer les choses de l'intérieur. C'est peut-être même une nouvelle voie pour le syndicalisme, qui sait, qui stagne dans la couverture syndicale au Québec depuis plusieurs années. Donc, de s'organiser, bien sûr, autour d'enjeux du travail, mais complémentaires aussi, tels que les enjeux climatiques, ce qui oblige du moins un dialogue entre les parties, employeurs et employés. D'ailleurs, c'est un constat auquel arrivent les grandes firmes liées au milieu des affaires qui analysent le phénomène des quitters. Donc, ils ne disent pas que les gens devraient syndiquer naturellement, mais qu'une entreprise qui veut passer le test du temps devra mettre en place des espaces de dialogue à l'interne et d'impliquer les employés dans les plans de transition. Et ce n'est pas « devrait », c'est « devra ». Donc, c'est assez clair. Et c'est d'ailleurs le même constat que l'Organisation internationale du travail, qui regroupe les employeurs, les syndicats et les États, est arrivé en juin dernier lors de sa mise à jour des principes directeurs sur la transition juste. Cette nécessité-là de dialogue et de participation active des deux parties dans les plans de transition. Parce qu'au Québec, en temps normal, le taux de roulement est déjà effarant en ce moment au niveau et les employeurs peinent à garder les employés longtemps. Donc, quand on rajoute une couche en leur demandant de mettre en place des plans de transition, habituellement, ils nomment deux freins. Le premier, les programmes de financement qui sont totalement inadéquats avec le marché du travail en ce moment. Et le deuxième, cette peur d'aborder ces enjeux-là avec leurs employés. Pourtant, c'est exactement ce qu'ils doivent faire maintenant, avant de devoir leur chanter « Ne me quitte pas ». pendant que ces derniers leur disent « bye bye, boss ».
Oh, oh! Merci, Patrick, pour cette super chronique. Écoute, c'est sûr que ça relève des points essentiels qui sont de plus en plus présents. Et pour qu'il y ait un mouvement de Climate Quitters, que ce soit maintenant un mouvement, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une voix qui est plus forte, qui est en train de parler et qui obligera les employeurs, les syndicats, tout le monde, finalement, à mettre en place des mesures beaucoup plus claires, beaucoup plus inclusives aussi, à travers cette transition socio-environnementale qu'on vit tous.
Qui est nécessaire aussi, effectivement, et qui passe par le dialogue, la collaboration. Mm-hmm. Quelquefois, des gestes un petit peu plus radicaux, comme quitter son emploi et de dire « ça ne marche pas ».
Oui.
Mais oui, on a de nouvelles pistes pour les prochaines années sur lesquelles travailler. Dans le monde du travail, c'est indéniable et c'est captivant.
Oui, absolument. Très, très captivant. Merci beaucoup de nous avoir informés sur ce sujet-là, que je ne connaissais pas du tout, en fait, les Climate Quitters. Nouveauté pour moi, nouveauté pour moi. Passe une excellente journée, Patrick.
Merci, toi aussi.
Au grand plaisir de te revoir très, très bientôt. Alors... restez tout prêts. On s'en va vers une courte pause, mais tout de suite après, on s'entretient avec Alexandre Escure pour la minute de culture générale pour parler de Georgia O'Keeffe et Henry Moore, une belle exposition en ce moment au Musée des beaux-arts de Montréal. À tout de suite.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Trait d'union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Trait d'union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'ils et qu'elles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques... Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 101.5.
Monsieur Bulle et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h, à CIBL 101.5 Montréal.
Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
CIBL 101.5 Montréal.
Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5 et je me retrouve avec Alexandre Escure qui nous parle d'une superbe exposition en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonjour Alexandre.
Bonjour Maud, tout à fait. Je voulais vous parler de l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal parce qu'elle présente deux artistes, Henry Moore, mais surtout pour moi, Georgia O'Keeffe, qui est une artiste exceptionnelle, mais dont je me rends compte que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et donc, j'avais envie un peu de vous sensibiliser à cette artiste. Une petite anecdote personnelle est que pendant la pandémie, j'ai fait un retour en Europe de quelques mois et il y avait déjà une rétrospective Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou à Paris en 2021. Et moi, ça m'a vraiment permis de la redécouvrir à ce moment-là. J'ai eu aussi la chance de découvrir donc l'exposition du Musée des Beaux-Arts vendredi dernier. Mais qui était donc Georgia O'Keeffe ? C'est une artiste américaine du XXe siècle, surtout connue pour ses peintures de fleurs, de paysages, de déserts du sud-ouest des États-Unis et de formes abstraites inspirées par la nature. Ses peintures de déserts, de montagnes et de formations rocheuses capturent souvent la grandeur et la simplicité de la nature. Les peintures de fleurs de Georgia O'Keeffe sont parmi ses œuvres les plus célèbres. Elle zoomait sur les fleurs, les agrandissant pour les rendre presque abstraites, explorant la forme et la couleur de manière intense et expressive. C'est vraiment ce comme ça qu'on la connaît, c'est pour ces images-là. En plus de ses représentations figuratives de la nature, O'Keeffe a également exploré l'abstraction. Ses peintures abstraites étaient souvent inspirées par des formes organiques et géométriques trouvées dans la nature, mais elle les simplifiait, les stylisait au maximum pour créer des compositions très puissantes. Certaines des œuvres de Georgia O'Keeffe contiennent des éléments symboliques ou allégoriques, souvent liés aux thématiques de la vie, de la mort, de la spiritualité et de la féminité. Georgia O'Keeffe est une figure importante du mouvement qu'on appelle le modernisme américain. Son travail a contribué à définir une esthétique distinctement américaine en explorant des sujets et des motifs qui étaient profondément enracinés dans le paysage et la culture américain. Je tenais à nommer une citation que l'on peut découvrir dans l'exposition au Musée des Beaux-Arts, que je trouve vraiment tellement vraie et tellement nécessaire. Georgia O'Keeffe dit « Quand nous tenons une fleur dans la main et que nous l'observons vraiment, elle devient notre monde pour un instant. Ce monde, je veux le donner aux autres. La plupart des gens en ville sont pressés, donc ils n'ont pas le temps de regarder une fleur. Je veux qu'ils la voient, qu'ils le veuillent ou non.
» Une belle imposition.
Exactement. Qui était donc Henry Moore ? Lui, c'est un sculpteur britannique dont le travail a exercé une influence significative sur le monde de la sculpture moderne au XXe siècle. Pendant ses années de formation, il a été très exposé à différents mouvements artistiques de l'époque, dont le cubisme et le surréalisme. Moore est surtout connu pour ses sculptures abstraites, souvent inspirées par des formes organiques trouvées dans la nature, telles que les pierres, les coquillages et les os. Il était fasciné par la dualité entre la forme extérieure d'un objet et l'espace interne qui le définit. Moore était aussi un fervent partisan de la sculpture en plein air. Il croyait que l'art devrait être accessible au grand public et a créé de nombreuses sculptures monumentales conçues pour être placées dans des espaces ouverts tels que des parcs et des places publiques. Parmi les thèmes récurrents dans le travail de Moore, on trouve aussi la maternité, la famille, la guerre aussi et la nature humaine. Ses œuvres sont souvent chargées d'une profonde humanité et d'une sensibilité à la condition humaine. L'influence de Moore sur la sculpture moderne est immense et ses œuvres sont exposées dans des musées et des espaces publics du monde entier. Mais qu'est-ce que le modernisme américain, peut-on se demander ?
Oui.
C'est un mouvement essentiel dans les arts et qui a touché pratiquement toutes les disciplines des arts, dont les arts visuels, et en voici quelques caractéristiques. Comme dans d'autres parties du monde, les artistes visuels américains du modernisme ont rejeté les conventions du réalisme académique qui dominaient auparavant. Le réalisme, pour ceux qui ignorent ce que c'était de manière pratique, c'était l'imposition de normes, de sujets, donc le sujet d'histoire, ce qu'on retrouve dans l'histoire de l'art pendant des siècles. C'était des thématiques imposées aux artistes et ils devaient s'y prétendre pour pouvoir vendre. Et le modernisme et d'autres mouvements comme ça, on dit, nous, on en a marre, on veut peindre le présent, on veut peindre le réel, on veut se défaire de cette obligation académique. Ils sont venus briser les règles de l'époque pour mener à ce qu'on a aujourd'hui, l'art moderne et l'art contemporain.
Une chance.
Exactement. Donc, ils ont cherché à explorer de nouvelles formes d'expression artistique et à élargir les frontières de ce qui était considéré comme l'art à l'époque. De nombreux artistes modernistes américains étaient intéressés par l'exploration de l'identité nationale et de la culture américaine. Ils ont utilisé leur art pour refléter les réalités et les défis de la vie américaine moderne, tout en cherchant à définir ce que signifiait être américain dans un monde en mutation rapide. Bien que le modernisme américain ait été enraciné dans les réalités et les expériences spécifiques des États-Unis, il a été lui-même inspiré par des mouvements européens, dont ceux qu'a connu Moore, le cubisme, le surréalisme, mais aussi le futurisme. Les artistes visuels modernistes américains étaient connus pour leur expérimentation avec une gamme de formes artistiques et de techniques. Cela comprenait l'utilisation de couleurs vives et de contrastes audacieux, l'abstraction des formes et des compositions, ainsi que le début de l'exploration de nouveaux médiums tels que la photographie et la vidéo. De nombreux artistes modernistes américains étaient engagés socialement et politiquement, utilisant leur art pour aborder des questions telles que la justice sociale, les droits civiques et les inégalités économiques. Bien sûr, ça a été très inspiré et influencé par les événements tumultueux du XXe siècle, dont les deux grandes guerres et le mouvement des droits civiques. Alors, pourquoi rapprocher Henry Moore et Georgia O'Keeffe?
Mais oui, ça, c'était la question à laquelle j'avais hâte que tu arrives.
Parce que, en fait, souvent, il y a des expositions de rapprochement et on n'est pas toujours sensible. On se dit, mais pourquoi? Là, pour une fois, c'est vraiment une expo qui vaut le rapprochement. Ils ont en effet beaucoup de points différents, mais ils en ont tellement en commun. Et quand on visite l'exposition, c'est vraiment une des constatations qu'on se fait. C'est fou que deux êtres qui ne se sont croisés qu'une seule fois dans toute leur existence avaient autant de passion et de loisirs communs. Donc, surtout, par exemple, quand on redécouvre ou quand on découvre la reconstitution de leurs deux ateliers qui sont reconstitués à l'identique dans le musée des Beaux-Arts. Et là, on voit le même intérêt pour toutes ces formes organiques trouvées dans la nature, pierre, coquillage et os. Et Dieu sait que ce n'est pas quelque chose qui attire dans la décoration de tout le monde.
Non, c'est ça.
Par ailleurs, les deux artistes ont utilisé l'abstraction dans leur travail pour simplifier et styliser les formes naturelles. O'Keeffe était donc connu pour sa capacité à capturer la texture détaillée des fleurs et des paysages, tandis que Moore était intéressé par la façon dont la forme extérieure d'un objet peut être manipulée pour révéler un espace interne dynamique. Alors, quelques autres artistes du modernisme américain, pour vous les citer, il y a Jackson Pollock, qui est connu pour ses peintures abstraites gestuelles, Willem de Kooning, également associé à l'expressionnisme abstrait, Mark Roscoe, qui est célèbre pour ses vastes champs de couleurs vives, Edward Hopper, qui est pour ma part mon artiste préféré
c'est
au
vrai,
monde, je tiens à
le
dire, qui est connu pour ses peintures urbanistes. Il capturait des scènes de vie quotidienne américaine avec un sentiment de solitude et d'aliénation assez profond. Et bien sûr, Georgia O'Keeffe. Le modernisme, comme je vous l'ai dit, ça touchait vraiment beaucoup d'autres domaines. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce domaine-là, je vous invite à découvrir en littérature James Joyce, qui était un écrivain irlandais qui a fait un travail expérimental et une utilisation novatrice de la langue dans ses œuvres telles que Ulysse. L'écrivaine britannique Virginia Woolf, qui est associée au modernisme littéraire, qui est célèbre par exemple pour son roman Mrs. Dalloway. En musique, Igor Stravinsky, le compositeur russe, dont la musique a été une force majeure dans le développement du modernisme musical, avec son œuvre comme le Sacre du printemps. En art visuel, il y a Marcel Duchamp, l'artiste français dont le travail a été central dans le mouvement Dada et a contribué au développement de l'art conceptuel puis de l'art contemporain. Il est connu pour son urinoir inversé qu'on appelle la fontaine de Duchamp.
D'accord. Frida, je connaissais pas.
C'est une œuvre marquante parce que la première fois qu'on la voit, évidemment, il y a beaucoup de doutes, de questionnements sur pourquoi un urinoir à l'envers. Mais quand on comprend en quoi ça a été une rupture par rapport à tout ce qui était académique. C'est essentiel dans l'évolution de l'art. Sans Marcel Duchamp, il n'y aurait pas l'art moderne et l'art contemporain qu'il y a eu derrière. Frida Kahlo, artiste mexicaine connue pour ses peintures autobiographiques, influencée par le surréalisme aussi et le réalisme magique, souvent caractérisé par des thèmes de douleur, de passion et d'identité. Et pour finir, Salvador Dali, peintre surréaliste espagnol, célèbre pour ses œuvres oniriques et ses images fantastiques telles que la persistance de la mémoire. Tous ces artistes ont contribué de manière significative au mouvement moderniste à travers leurs œuvres innovantes et expérimentales, qui ont souvent été en avance sur leur temps et ont continué à influencer les générations d'artistes à venir. C'est donc la fin de cette chronique qui faisait écho au volume « La culture d'hier » du cabinet de curiosité contemporain, des ateliers de culture générale en entreprise autour des thématiques suivantes « Histoire de l'art, histoire et patrimoine québécois » pour inspirer la créativité et permettre l'intégration québécoise. Plus d'infos sur le site cabinetcontemporain.com. Pour en savoir plus, une seule chose à faire, courir, découvrir l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Elle se termine vite, le 2 juin prochain.
Ah oui.
La petite astuce est de réserver votre billet en ligne parce que, exceptionnellement, le Musée des Beaux-Arts propose un rabais de $3 sur le prix du billet si on réserve en ligne. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une chronique autour de la biophilie.
Très hâte d'entendre parler de cela. Et par curiosité, est-ce que l'exposition que tu as vue ici au Musée des beaux-arts de Montréal était exactement la même qu'au Centre Pompidou? Ou tu as découvert des nouvelles œuvres que tu n'avais pas revues ou vues depuis longtemps?
L'expo en France avait d'autres œuvres de Georgia O'Keeffe avec des bâtiments, par exemple, ce qui n'est pas du tout présent dans l'expo du Musée des beaux-arts. En revanche, ce qui est très présent au Musée des beaux-arts que je n'avais pas vu en France, c'est tout le côté désert américain. En effet, on découvre que son atelier était perdu au fin fond du Nouveau-Mexique. Il faut vraiment aimer cette solitude. Il y avait son ranch et à perte de vue des prairies et des montagnes au fond. Et elle était entourée de cette nature et elle l'a vraiment peinte énormément. Et elle a beaucoup peint aussi donc, d'os, de crânes, etc., qu'on trouve dans les déserts et voilà. Et ça, c'est toute une partie que je n'avais pas découverte et associée vraiment à Henry Moore. Et c'est vrai que même Georgia O'Keeffe s'est aussi lancée parfois un peu dans la sculpture. Et alors que pourtant, ils ne se sont rencontrés qu'une fois, parfois, on essayait de deviner, tiens, sculpture de Moore ou de O'Keeffe.
C'est vrai, hein.
Et on se trompait une fois sur deux parce que les médiums vraiment sont similaires. La façon de travailler la matière est similaire. Et puis, je pense que leur intention, leur démarche artistique était foncièrement la même.
C'est incroyable quand même. Comme tu dis, qu'ils se soient rencontrés qu'une seule fois, des espèces
une seule fois,
d'âmes sœurs artistiques ou
ils
de jumeaux artistiques.
Ils sont décédés la même année, 1986. Vrai, hein. Georgia O'Keeffe est connue pour avoir vécu plus de 100 ans. Henry Moore, un peu moins, mais bon, ils ont vraiment connu les mêmes événements historiques. Ils ont... Pour moi, à un moment, je lisais un cartel dans l'exposition et je me disais, c'est quelque part des âmes sœurs qui ne se sont pas rencontrées.
Oui, c'est vrai.
voilà, bon, c'était mon idée du moment.
Hein, petit côté romantique.
Voilà, mon petit côté romantique, artistique.
Mais quand même, avec tous les liens qu'on
mais
peut
avec
faire,
tous les liens,
c'est particulier.
Oui,
c'est
exactement.
Très particulier. Et est-ce que je comprends que l'art moderne, de l'art moderniste, est pour toi vraiment ta préférée ou c'est-tu ton époque préférée? Au niveau artistique?
Non, comme beaucoup de gens, j'aime quand même aussi beaucoup l'impressionnisme parce que artistiquement, c'est une période où vraiment on s'attache à cadrer le réel avec de nouvelles créations de matière et d'effets visuels. Moi, j'aime 200 périodes artistiques. Ah, bon. Je pense qu'on ne va pas s'étendre là. Mais le modernisme est une période essentielle pour arriver à l'art contemporain et pour le comprendre. Parce que le problème de l'art contemporain, souvent, c'est le rejet un peu immédiat devant des formes abstraites qu'on ne comprend pas et des démarches qu'on ne comprend pas. Parfois, il n'y a pas de démarche et je suis d'accord. Ouais. Mais quand il y a une démarche et qu'elle s'inscrit dans la continuité de mouvements qui ont été liés aux enjeux politiques et sociaux et économiques, ça prend son sens et c'est essentiel.
Eh bien, encore un grand merci, Alexandre
Escure,
pour cette chronique fort intéressante et on se retrouve dans 2 semaines.
Oui,
bonne journée
plaisir.
À toi.
Bonne journée.
Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Karine Gilavoie, une autrice et bien d'autres choses, qui nous parle de son second roman jeunesse de la série Keira Green, j'espère que je le prononce correctement, Au secours de la planète bleue, déjà disponible en librairie. Bonjour Karine.
Allô, bon matin Maude.
Bon matin, très heureuse de t'avoir au bout du micro.
Ben moi aussi, vraiment, merci à toi et toute l'équipe pour cette magnifique invitation ce matin. Bonjour tout le monde à l'écoute.
Ben oui, avec grand plaisir, Karine. Donc, comme je le disais, tu es l'autrice des livres d'aventure. Keira, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce, son nom? C'est important
pour
moi.
Oui, Keira Green.
Keira Green, OK, parfait. Donc, Au secours de la planète bleue, qui est aux éditions Héritage Jeunesse, avec les superbes illustrations, je tiens à le nommer, de Sacha Lefebvre. C'est vraiment magnifique.
Absolument.
Ces dessins, c'est incroyable. Et tu es également neuropsychologue clinicienne. Moi, je suis curieuse, Karine, de voir comment s'est tissé ton parcours en tant qu'autrice, ton parcours jusqu'à l'écriture.
Bien, c'est une très bonne question. Bien, en fait, j'ai toujours aimé écrire. Puis donc, mon travail demande beaucoup d'écriture. Peut-être juste pour les auditeurs qui ne savent pas, pour chaque jeune que je vois, ben je dois écrire un rapport qui raconte un petit peu son histoire. Donc, comment on peut aller dans le sens de la vague, dans sa vague à lui, pour permettre d'actualiser son plein potentiel. Fait que c'est un peu comme si je me suis pratiquée à écrire des mini-romans pour chacun des enfants que je vois. Puis ça dure depuis 25 ans. Fait que c'est sûr qu'avec un recul, je dirais que j'étais un peu une karaté kid là, qui a pratiqué assez bien la technique d'écriture. Puis si je fais un lien avec ce qui s'en vient, c'est que certain que... quand tu travailles en clinique, tu es beaucoup dans la solution au niveau individuel. Puis je dirais que depuis les dernières années, c'est sûr que j'entends comme tout le monde tout ce qui se passe au niveau des inquiétudes bon, par rapport à leur avenir, aux jeunes, puis aussi à notre avenir. Puis, j'avais une insatisfaction par rapport à mon travail. Donc, c'est sûr que dans le cadre de des fonctions de neuropsychologue, on peut pas vraiment aborder la thématique de l'environnement comme telle. Donc, c'est sûr que j'avais pas cette opportunité-là. Puis, j'avais envie de travailler aussi dans la solution, mais plus dans le collectif. Parce que juste d'aider au niveau de l'individuel, ben c'est bien, c'est quand même pas rien. Mais pour moi, ça avait comme pas de sens de pas aussi m'investir dans la protection de leur avenir. Puis là, c'est passé le fameux jour J. Ça fait longtemps quand même, c'est en décembre 2012. J'ai comme eu un genre d'appel de la vie, mettons qu'on l'appelle comme ça. Je me souviendrai toujours que c'était après une grosse tempête de neige, puis j'étais prise dans le trafic pendant vraiment beaucoup d'heures, là. En fait, 4 heures, juste avant même de commencer ma journée de travail. Puis je m'étais vraiment préparée tôt pour pas être prise comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai littéralement constaté que je faisais comme vraiment partie du problème. Je voyais des autos à perte de vue dans la neige, des kilomètres et des kilomètres de distance. Puis j'avais pas ma voiture électrique à cette époque. Puis là, je me suis dit, wow, OK. Moi aussi, je fais partie vraiment de la problématique. Même si je faisais attention dans plein d'aspects de ma vie au quotidien, j'en revenais juste pas de constater ça. Puis ça, je te dirais que c'était vraiment un point de bascule dans le processus d'écriture. Ce soir-là, en tout cas, bref, j'ai demandé à l'univers, je dis là, il faut que tu me donnes les outils, les moyens de soit faire une différence ou tu m'enlèves cette espèce de sensibilité-là qui était vraiment super souffrante. Je suis quelqu'un de très sensible. Et quelques jours plus tard, dans le fond, la vie m'a envoyé le projet de Kara littéralement en rêve. Donc, je l'ai vu comme un film. Tellement que c'était clair que je me souviens que le lendemain, j'avais été voir sur l'Internet pour voir où c'est que j'ai vu ce film-là.
Est-ce que ça existe déjà?
Non, ça n'existait pas pantoute. Fait que c'était mon film. Alors, oui, c'est là que ça a commencé.
Quelle merveilleuse histoire inspirante. Et oui, il n'y a rien de tel que d'être pris dans le trafic aussi longtemps pour se dire, je peux bien chialer sur le trafic, mais je suis dedans aussi.
Absolument.
Et donc, pourquoi avoir choisi la littérature jeunesse pour parler d'enjeux socio-environnementaux?
Oui. Bien, je dirais que à défaut d'avoir un Denis Villeneuve à proximité pour faire un film, l'alternative pour moi la plus facile en fonction de mes talents puis mes moyens, c'était l'écriture. On le sait, les livres ont cette capacité magique d'émerveiller les esprits, de pouvoir inspirer de partout, dans tous les milieux, dans toutes les langues. Donc, c'est super pratique, accessible, c'est vraiment puissant, l'écriture. Donc, puis aussi, ben comme tu l'as mentionné tantôt, j'avais la possibilité d'ajouter de magnifiques images signées par Sacha. Donc, on a travaillé fort ensemble pour que j'essaie de lui donner les idées dans mon cerveau pour qu'il puisse les mettre pour au profit des jeunes aussi, des fois qui ont moins d'envie. Il y a moins d'intérêt. Des fois, pour la lecture, je travaille beaucoup avec les jeunes avec des trous d'apprentissage. Puis des fois, la lecture avec des gros livres, c'est pas toujours facile. Alors, je voulais vraiment susciter l'intérêt au maximum avec auprès de tous les lecteurs. Alors, je trouvais que l'écriture, c'était une belle formule de passer à une belle formule pour représenter mon message, en fait.
Oui, puis d'entrer dans le collectif comme était ton souhait, finalement, pour susciter un engagement également. Et là, en lisant tes livres, tu l'as dit, c'est une façon d'entrer dans l'imaginaire, de toucher les esprits, et on peut facilement plonger dans les aventures avec tes personnages, tu sais, dans ta façon de l'amener. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très coloré au niveau de l'écriture. Là, tu sais, je parle pas seulement des magnifiques images de couverture et à l'intérieur des dessins. Ça donne un sentiment de puissance. On aurait le goût, nous autres aussi, d'avoir des super pouvoirs, puis de pouvoir d'être en mesure de faire ça. J'aimerais ça que tu nous parles des trois personnages principaux. Donc, il y a Keira, il y a Jasmine et Esteban. Pourquoi ces trois personnages-là? Qui sont-ils?
Oui, bien écoute, premièrement, je tiens à dire qu'on a tous un super pouvoir en nous. OK? Puis il faut juste le laisser émerger. Pour mes personnages, comme je t'expliquais, j'ai vraiment rêvé en rêve, mais si on fait un topic, bien, ils sont tous d'origine et de cultures différentes, mais ils partagent en même temps plusieurs caractéristiques et des mystères, comme par exemple, nos trois héros, leurs parents ont disparu dans des circonstances à la fois mystérieuses, mais aussi similaires. Ils ont les yeux de la même couleur, sont nés la même date de fête, ces choses-là. Puis si on revient de façon plus spécifique, bien, il y a Keira Green, d'où le nom de la série, qui est d'origine amérindienne. Puis elle a une connexion très, très spéciale avec la nature végétale. Mm-hmm. Donc, elle est très aventureuse, très loyale. Elle va aussi découvrir, encore plus dans le tome 2, qui vient de sortir, des dons très spéciaux avec les émotions. Mm-hmm. Puis elle va comprendre, en fait, le pouvoir de ces fameuses émotions-là. Puis là, ben, notre deuxième mousquetaire, Jasmine Eva, d'origine asiatique, ça, c'est un petit peu notre force tranquille du groupe. Mm-hmm. Donc, de nature très réservée, elle est douce. Elle va découvrir d'incroyables pouvoirs, genre sur les éléments naturels au fil des aventures, que ce soit de l'énergie solaire, l'eau, l'air, etc., etc. Puis elle va aussi se rendre compte tranquillement que son cœur va battre pour un des autres personnages. Puis je vais vous laisser le découvrir au fil des aventures. Parce que c'est sûr qu'on peut pas faire une bonne histoire s'il n'y a pas une histoire d'amour à quelque part. Donc, on a gâté tout le monde là-dedans. Et notre troisième mousquetaire, notre très cher et unique et très attachant Esteban Terra, lui est d'origine afro-descendante, très, très protecteur de ses deux amis, sportif, intense, très impulsif. C'est sûr que ça va jouer des tours, des maladresses dans son parcours, mais ça va aussi faire travailler sa patience, je te dirais. Puis à sa grande satisfaction, souvent les jeunes garçons aiment bien, là, mais lui, il va découvrir qu'il y a une connexion qui est très, très spéciale avec les animaux, puis il va découvrir des super pouvoirs de transformation.
Wow! Ouais, puis, quelle aventure avec ces trois personnages!
Oui, puis ce que j'aimais faire le lien aussi avec, je te dis, mon travail, c'est que chacun a quand même des défis d'apprentissage, là, mais ça prend tellement pas le plancher, mais je trouvais que c'est un beau clin d'œil aussi avec les jeunes avec qui je travaille pour montrer qu'on est capable d'être des super-héros, même si on a des petites caractéristiques particulières.
Ben oui, absolument. C'est super bien intégré. Puis justement, l'écriture permet ça d'avoir en filigrane des fois des thématiques qui sont prépondérantes dans l'histoire, mais qui vont quand même entrer dans l'imaginaire des lecteurs puis faire « Ah, peut-être que ça fait un petit... une petite tape dans le dos de dire « Ah, moi aussi, je suis capable. »
Exactement.
Même si j'ai des difficultés, des défis, on en a tous à différents niveaux.
Absolument.
Donc, je trouve qu'en ce sens-là, c'est bien intégré. C'est un beau clin d'œil, en tout cas, à ton
métier.
Merci. Et puis, du côté du lectorat, tu sais, moi, il y a mon fils de 11 ans qui avait lu « Le sablier du temps », qui est le tome 1. Et là, quand il a vu « L'horloge sacrée », le tome 2, qui arrivait sur la table, il a crié de joie. Il était tellement content d'avoir la suite de l'histoire.
Il
l'a commencé. Dès qu'il l'a vu, là, il a commencé à feuilleter puis il était tout excité de l'avoir. As-tu des retours de ton lectorat? C'est quoi ton contact avec tes lecteurs, tes lectrices?
Ben, comment là, ils reçoivent avoir de... ça? Oui, bien, écoute, très bonne question. Puis jusqu'à présent, c'est sûr que j'ai divers témoignages. J'ai ceux, par exemple, les plus jeunes, souvent, ils vont... Parce que ça commence à l'âge de 9 ans, mais ça dépend du niveau de lecture. Donc, les plus jeunes vont souvent s'attacher à un personnage en particulier. Fait qu'eux, ils vont plus me poser des questions sur c'est qui ton... qu'est-ce qui va arriver avec leur héros préféré. Les plus vieux, eux, vont souvent demander c'est quand est-ce le prochain tome va sortir. Okay. Fait que ça, c'est tout le temps bien drôle parce que je pense qu'ils perdent de vue là, tout l'amour puis le travail qui est en arrière de ça. Mais c'est un beau problème, là, parce que dans le fond, ça leur montre, en tout cas, ça me témoigne qu'il y a un intérêt là, pour la suite des choses. Donc, c'est certain que... on parle beaucoup de thématiques d'aventure, d'intrigues, d'énigmes, mais c'est sûr qu'on va parler beaucoup des thématiques aussi qui viennent les rechercher de plus en plus, comme la justice sociale, le respect, l'amour de soi, l'empathie, ces choses-là. Donc, toutes des choses hyper importantes, je pense, qu'ils apprécient, qu'on aborde pour la suite des choses.
Et pour toi, l'écriture, est-ce que c'est une manière de militer?
Totalement. En fait, c'est certain que oui, c'est surtout avec le tome 2 là, c'est assez fort comme message. Donc c'est sûr que je souhaite divertir, mais pour être honnête, le premier objectif pour ma part, c'est vraiment d'inspirer les gens ou les jeunes à reconnecter avec l'essentiel, de réveiller ça en nous, tu sais, dans le fond, pour mieux agir par la suite, parce que nécessairement quand on aime quelque chose, on va en prendre soin. Puis de laisser aussi, quand on protège, on va laisser la chance à la nature de se régénérer. Donc, absolument. Donc, tout le projet, en fait, est autour de l'espoir, de passage à l'action, puis de le faire tous ensemble là, pour avoir un beau monde en santé et en paix.
Mm-hmm. C'est toujours beau de voir comment l'art peut être un moyen de véhiculer des idéaux, de véhiculer aussi de la militance comme ça, tu sais, sans que ce soit péjoratif, puis... là, mais au contraire, là, de donner...
Ah non, mais il faut, en fait, il faut, parce que si on fait rien, il se passera rien. Mm-hmm. Puis là, je profite de cette petite parenthèse-là pour te dire que c'est certain que, oui, on parle de solutions à l'intérieur des récits, tant à l'intérieur de soi-même qu'à l'extérieur, mais le projet comme tel porte une mission qui est éco-sociale. Mm-hmm. Donc, il va mettre en valeur des mouvements de protection du vivant qui militent dans la même direction, dans le fond, comme le mouvement Mère au front, par exemple, qui occupe une place super spéciale dans le tome 2 avec un chapitre hommage, par exemple. Puis aussi, ce projet-là, moi, je l'appelle mon livre-outil. Moi, je veux aller à la rencontre des jeunes, je veux leur parler, je veux les entendre. En fait, c'est un projet qui est un peu porte-voix pour eux, pour les, les inspirer, mais passer à l'action ensemble. Puis ça, c'est le meilleur antidote, en fait, pour l'éco-anxiété. Donc, je vais aller vraiment... Puis là, juste pour te donner une idée, en fin de semaine, on a eu le tournage. Je veux rendre ce projet-là lumineux et vibrant. Puis on a eu un tournage pour la bande-annonce, en fait, sur le projet. Donc, on a été chercher, on a fait un appel de casting pour aller chercher des jeunes pour mimer un peu nos trois personnages principaux. Et puis là, on va faire une belle bande-annonce avec ça, qui était dirigée par Clémence Roy-Darris et la firme Quintus. Ça va sortir sous peu, mais aussi dans les prochaines semaines, on va les rencontrer, ces jeunes-là. On va discuter des thématiques. Et aussi, je vais faire un petit peu le tour du Québec là, via différents événements qui vont faire référence un petit peu au calendrier vert que je suis en train de développer pour aller à la rencontre des jeunes puis dans les différentes municipalités.
Fait que là, il y a tout un plan qui est déployé présentement pour te permettre d'être davantage en contact avec ces jeunes-là.
Un gros plan.
Ben oui,
un gros
avec
plan.
Tout ce que tu viens de nommer, je me dis, mon Dieu, mais ça en fait des choses, Karine.
Oui, il faut dormir. Dormir à travers, oui. Mais...
Oui, ben écoute, je te souhaite de dormir, là, c'est important, ça aussi.
Oui.
Bande-annonce, est-ce que ça veut dire qu'il y aura éventuellement des clips, un petit film, des capsules avec ces personnages-là?
Le film, j'attends Denis Villeneuve, son appel.
Bon,
pour rire, là, j'attends. Hey, ça serait sur le fun. Mettons qu'on rêve pour rêver. Mais mettons que, il y a une suite, c'est certain. Pour le film, ça, c'est un rêve, là, mais mettons. Donc, je peux pas abandonner mes jeunes comme ça. C'est sûr qu'il y a c'est une saga, donc on n'a pas le choix de suivre la série en séquence. Il y a au moins un gros tome qui s'en vient. Uh-huh. Mais là, il y a tellement d'idées, ça bouillonne là-dedans que je sais pas encore si je vais le décliner en trois volets. Mm-hmm. Mais je me laisse le temps là, de respirer, puis je veux surtout mettre au monde, puis nourrir les... Faut nourrir nos enfants là, avant qu'ils apprennent à courir, puis n'avoir d'autres. Donc je vise peut-être la fin 2025 là, pour l'autre morceau au casse-tête que je vais rajouter.
Bon, mais tu vois, t'as répondu à ma question, j'allais faire une ado de moi en te demandant, il est quand le prochain tome?
Oui, c'est ça! Mais je veux dire que, au moins toujours, cette semaine, en fait, je m'en vais au Salon du livre de Québec. Oui. Alors, pour ceux, les curieux, les curieuses, qui veulent en savoir plus. Donc, on présente officiellement le tome 2 avec des magnifiques signets ensemencés, très spéciaux. Et il y a des petites surprises avec ça que je vais laisser nos jeunes venir sonder le terrain. Donc, c'est ça. Donc, vraiment une belle mission.
Absolument. Un grand merci, Karine Gilavoie. Donc, allez la suivre sur les médias sociaux pour en savoir plus sur ses aventures et où elle sera avec ce calendrier vert là, bientôt dans une librairie près de chez vous. Hein, on l'espère.
Absolument.
Donc, un grand merci à toi, Karine, pour
cette belle
merci inspiration. Une excellente journée.
Merci. Bye-bye.
À très bientôt. Au revoir. Et c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. J'en profite quand même pour vous inviter à un événement de communication environnementale qui se déroulera à la Maison du développement durable le 16 avril prochain. Oui, et c'est pas parce que j'en fais partie que j'en fais la promotion, mais oui, j'y serai comme panéliste, entre autres. Donc, au plaisir de vous y voir. Inscrivez-vous en ligne www.lamdd.org. Et sinon, bien, merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Et on se retrouve la semaine prochaine sans faute.
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éthique à loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.